Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. La semaine dernière, nous nous étions penchés quelque peu sur le cas de certaines sectes et ce qu'elles exigent. Et nous avons parlé des dirigeants religieux tels que Charles Manson, Moon, Jim Jones et Moïse David. Au moins, deux points leur étaient communs. Les méthodes d'endoctrinement inquiétantes, les sévices plus ou moins prononcés, c'est-à-dire privation de nourriture, de sommeil, alliés à une activité cérébrale et un lavage de cerveau très intense. Tout ceci conduit à une soumission absolue, non seulement dans le domaine spirituel et physique, mais à tous les points de vue. Les membres abandonnent non seulement leurs croyances antérieures, travaillent dur sans rétribution, mais font également abstraction totale de leur personnalité. Enfin, le revenu aux propriétés tombe ipso facto dans l'escarcelle de la secte. Nous rejoignons maintenant et à nouveau le terme de cet entretien choisi dans le 23e proverbe « Acquiert la vérité et ne la vend pas ». La religion de Jésus, le christianisme, ne ressemble en rien à toutes ces choses inhumaines et horribles. Il faut non seulement désirer la vérité de Dieu, mais également être à même de soumettre sa volonté à celle du Seigneur et jamais à celle d'un homme. L'apôtre Paul décrivit un jour en s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, « Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoya une puissance d'égarement. » Chaque être devrait vouloir connaître les beautés du vrai christianisme. Cela inclut la volonté d'obéir à la volonté de Dieu malgré ce que cela peut coûter. L'étiquette collée sur cette vérité indique généralement un prix élevé, c'est-à-dire plus que la plupart des gens ne désirent payer. Jésus lui-même nous montre l'importance qu'il y a de réfléchir au prix de l'obéissance au lieu de foncer tête baissée et devoir abandonner son projet. Il dit ceci, « Si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne suit pas ne peut être mon disciple. » Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que de tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Tout ceci ne signifie pas qu'il faut nécessairement haïr sa famille pour suivre le Seigneur. Jésus ne veut absolument pas dire ici qu'il faut réfléchir au prix pour ensuite décider que cela coûterait de toute manière trop cher de le suivre. Au contraire, le Fils de Dieu nous exhorte à réfléchir sur ce que nous pourrions refuser de vouloir payer. Le prix dont il est question ici, quant à l'obtention de la vérité de Christ, est à la portée de chaque individu responsable de ses actes vivant sur terre. Et cependant, il est fixé avec une grande exactitude. Pas de compromis, pas de marchandage, pas de solution banale et bancale. Jésus affirme qu'il n'en coûte rien, qu'il ne soit simple, si facile, si universel, qu'il est impossible d'y apporter une quelconque altération ou modification. Fondamentalement, il n'existe que deux considérations majeures. Lorsque quelqu'un aime le Seigneur, il obéit d'office à ses commandements. C'est ce que Jésus exprime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'apôtre Jean dit encore, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Par conséquent, c'est en calculant la dépense, dernier facteur prédominant, qui nous sera permis d'achever, de terminer l'ouvrage que l'Évangile a commencé à bâtir dans notre cœur. Il faut donc aimer suffisamment Dieu, et bien moins n'importe qui, y compris nous-mêmes, pour arriver à substituer sa volonté à la nôtre. En pensant au coût, une chose vient à l'esprit, le conflit d'intérêts qui peut se présenter. Jésus déclare, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. De même, on doit s'attendre à devoir faire quelque chose pour posséder cette vérité. Vous êtes mes amis, dit le maître, si vous faites ce que je vous commande. Mais il venait de préciser, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il allait faire. Et pourtant, Aussi simple et aussi raisonnable que soit le montant porté sur l'étiquette, l'homme estime que la vérité est encore trop chère. Il préférera aller en chercher une autre ailleurs, frelatée, insipide, fallacieuse. Il va payer une somme énorme, parfois tout ce qu'on possède pour l'acquérir. Étrange, n'est-ce pas? Au marché spirituel de la vérité, nous devons abandonner quelque chose de valeur pour obtenir ce qui nous paraît être précieux. De plus, pour des raisons pratiques, nous considérerons ce que nous avons obtenu comme ayant bien plus de valeur que le prix payé. La vérité à propos du royaume des cieux est, dit le Fils de Dieu, semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le fermier a payé le prix, tout ce qu'il possédait. Le marchand a fait de même. Il a vendu tout ce qu'il avait. Le prix de la vérité n'a jamais été bon marché. Lorsque nous possédons enfin la vérité, nous pouvons être certains de ne jamais avoir payé seulement pour savoir qu'elle existe. Non. Nous avons également acheté ses conséquences. C'est cela qui est merveilleux. Écoutons l'apôtre Paul raconter ce qu'il lui en a coûté d'accepter la vérité de l'évangile de Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul a payé le prix pour devenir chrétien. Seriez-vous disposé à le payer aussi? Tandis que je continue à méditer avec vous le sujet « Acquiert la vérité, ne la vend pas », il me paraît utile de poser une question très importante. Quels sont certains des facteurs déterminant une personne à vouloir connaître la vérité? Nombre de gens sont arrivés jusqu'à cette connaissance, mais ont en même temps découvert que le courage leur manquait pour l'acquérir. Il paraît évident que plusieurs principes importants doivent être envisagés. Premièrement, ai-je mis en pratique la vérité que je connaissais déjà? Celui qui a des idées trop larges quant à la vérité peut difficilement s'en procurer davantage. Deuxièmement, suis-je prêt à accepter la vérité d'où qu'elle provienne? D'aucuns croient ne pouvoir admettre un fait comme étant vrai que s'il est avancé par une personne particulière, un certain prédicateur. Êtes-vous comme les pharisiens qui regardaient avec dédain, peut-être ne faisant pas partie de leur dessein? Les Écritures relatent en Jean chapitre 9 à propos de la guérison opérée par Jésus sur un aveugle de naissance, que cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Ils le chassèrent. Ne croyez-vous que ce que votre Église enseigne au sujet de la parole de Dieu? Troisièmement, suis-je capable de vouloir changer mes convictions à la lueur d'une nouvelle vérité? L'ambition humaine, qui est probablement la plus noble, la plus rare et la plus difficile à atteindre, est en fait la volonté de façonner ses convictions à la clarté des connaissances supplémentaires. Êtes-vous vraiment prêt à acquérir la vérité et à ne pas la vendre? L'exemple de la conversion de Saul, relaté en Actes 9 et 22, est l'un des plus significatifs, car Paul modifia de fond en comble ses convictions les plus profondes. Saul était pourtant doté d'une conscience solide et sincère, tandis qu'il persécutait l'Église du Seigneur. Le futur apôtre Paul dit lui-même, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-là. » Et il est instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Cependant, après être devenu chrétien, il déclare sans fausse honte, en faisant allusion à l'existence menée sous la juridiction judaïque. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Quel changement, quel revirement d'esprit et de conviction, de persécuteur il devient apôtre. Avant, il achetait la vérité, cherchait à détruire à la fois cette véracité du Messie et ceux qui suivaient ce sauveur du monde. Mais après y avoir adhéré lui-même, son combat change d'objectif, de raison, de sens. On peut même dire qu'il donna littéralement sa vie pour cette vérité qu'il avait tenté de faire disparaître par tous les moyens. Bien des années plus tard, arrivé au crépuscule de sa vie, Paul dresse une sorte de bilan en s'adressant à son fils spirituel, Timothée. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. La tradition veut qu'il ait été décapité. Mais une chose est cependant certaine. L'apôtre Paul n'a pas hésité à payer le prix pour apprendre, accepter, vivre la vérité de l'Évangile pour enfin la partager avec un dévouement hors de commun. Ce dont les apôtres parlaient n'a pas changé. Et il n'existe qu'une vérité. Dès lors, chacun est en droit de se demander la raison pour laquelle tant de sectes prolifèrent aujourd'hui. Et la réponse est très simple. Des dirigeants humains se sont substitués à l'autorité de Jésus-Christ. Les enseignements prodigués ne sont plus conformes à la seule vérité évangélique. Peu de gens cherchent cette même vérité jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Enfin, qui veut en payer le prix? Il est facile de vendre, de se vendre. Il est moins aisé d'acheter en étant persuadé que nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Méditation biblique. Vous êtes offert par Jacques Marchal, qui m'a présenté. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition, sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX, et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.
Alléluia.